France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Bonjour, je m'appelle Hélène Grimaud. Je suis née à Aix-en-Provence en 1969 et je suis musicienne.
Let's go to Paris. I never knew the charm of spring. I never met it face to face. I never knew my heart could sing. I never felt a warm embrace till April in Paris.
Quand vous arrivez à Paris, 82, vous dites que le monde s'est barbelé.
Ben oui, parce qu'il y avait tout d'un coup des règles. Finalement, je me suis rendu compte que cet environnement avec Jacqueline Courtin et Pierre Barbizet, il y avait une grande liberté, c'était l'apprentissage, mais sans pression, finalement. Alors qu'en arrivant à Paris, il y avait quand même un format à respecter, alors évidemment contre lequel on vient se cogner aussi. C'est comme ça qu'on se forme le caractère, une fois de plus. Donc ça a été bien aussi. Ben, ça passait tellement vite. Incroyable. Moi, déjà, à partir de la deuxième année, j'avais l'impression d'être ailleurs. Et puis la troisième année, c'est devenu réalité avec ce premier prix. Et après ça, le troisième cycle. Et après ça, le départ.
Oui, ça va très vite, mais enfin, quand même, j'imagine qu'il y a une forme de vertige quand on a 12 ans, qu'on est à Paris, on a envie de découvrir. Est-ce que... Non, vous n'avez jamais eu de sentiment soit d'abandon. Et est-ce que cette liberté dont vous rêviez d'être enfin grande, d'être enfin libre, comme dans les livres, comme oui. Chez les grandes personnes, est-ce que celle que vous découvrez, elle est à la hauteur de celle que vous imaginiez? Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est celle que vous attendiez? Est-ce que vous êtes désarçonnée?
Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que une certaine partie de cette réalité est un peu décevante, parce qu'elle est quand même un peu terre à terre. Et donc on réalise que l'autre partie, il faut qu'on se la fasse soi-même, en fait. Donc on vit beaucoup dans sa tête, c'est bien. C'est pour ça que j'ai toujours dit, c'est important aussi pour les enfants. Alors c'est bien d'être occupé, hein, d'avoir toutes sortes d'activités, bien évidemment. En même temps, c'est aussi très important, je crois, pour les enfants d'avoir ce temps, comme ça, ouvert, où l'imagination peut se développer, sans support particulier, parce que c'est un allié, en fait, ce temps. Passer ainsi, ça développe, l'ennui, oui, exactement, ça vous permet de trouver toutes sortes de ressources en vous-même pour vous échapper encore mieux, encore plus fort. Donc, alors on essaie aussi de façonner ce contact à la réalité. Alors quand on est toujours entouré d'adultes, c'est plus ou moins facile parce qu'on arrive plus ou moins à manipuler son monde.
Donc, l'adulte a sans doute l'indulgence de l'enfant. Pour l'enfant.
Oui. Sauf quand il perd patience. Mais on les comprend aussi. Mmh. Moi, j'aurais perdu patience avec moi si j'avais été dans le rôle d'éducatrice. J'aurais été très fatiguée.
Et ce que vous nous dites aussi, c'est qu'on apprend finalement aussi bien en écoutant la nature qu'en regardant les gens marcher.
Oui. Moi, j'ai toujours adoré observer les gens. Ça, c'était un des plaisirs de la ville de Paris. Ça grouillait de monde et j'adorais regarder les gens qui passaient, essayer d'imaginer leur vie, me faire toutes sortes comme ça d'histoires. Et c'est d'ailleurs peut-être ce que j'ai le plus apprécié. Alors après, il y avait des classes aussi fantastiques, avec Jacques, avec Christian, le déchiffrage.
Donc c'est Jacques Rouvier qui est votre prof de piano.
Exactement, Christian Ivaldi, mon prof de déchiffrage.
Oui.
Et lecture à vue et Geneviève Joie. Alors elle, c'est la sœur, l'âme sœur de Pierre Barbizet, hein, dans le registre féminin. Donc c'était magnifique. Alors même si je continuais à rendre visite à Pierre et à jouer pour lui, elle a bien pris le relais, c'était fantastique.
Thank you. musique de chambre, ça c'est une conversation que vous avez tout de suite aimée parce que vous avez ce caractère fort, cette imagination. On se dit que peut-être d'emblée, c'est pas le caractère qui se fond le plus ou qui en tout cas n'attend pas forcément.
Oui, c'est tout un art, la musique de chambre. Certainement le plus grand, parce qu'on réalise que le compromis n'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Il en va de même pour les concerts avec orchestre, tout partenariat artistique finalement, où on arrive à rester soi-même tout en grandissant par la vision de l'autre, par son énergie. Et donc les forces communes se décuplent ainsi. Et on a l'impression parfois, quand l'alchimie est vraiment présente, de décoller, de voler. Peut-être encore plus que quand on joue seul. Quand on joue seul, il faut d'abord recevoir cette visitation. Ouais. Avant que ce soit possible. Alors que là, ensemble, on peut vraiment aller très loin. Ça peut être galvanisant. Et puis, bon, j'ai eu de la chance. Geneviève Joie m'a trouvé un partenaire fantastique, Henri de Marquette. Et on a tellement aimé jouer ensemble. On était tous les deux dans l'énergie. En même temps, on était complémentaires. Et c'était un très beau duo dans le sens où on allait bien ensemble. Voilà. Et elle a toujours eu le flair pour les choses, Geneviève. Et donc, elle était exigeante aussi, attention. Hein. Bon, j'ai tellement appris de tous, c'est incroyable.
Christian Evaldi, c'est un autre caractère. Il a été à votre micro il y a quelque temps pour les grands entretiens. Et, cette réserve, cette élégance et en même temps, ce charme évident. Et puis... tout ce monde intérieur.
Oui, moi, Christian, il m'a fascinée. Je l'adorais et il a eu joué un rôle très important. Et puis en plus, comme matière, qu'est-ce que c'est le déchiffrage, voilà. C'est un peu abstrait parce qu'il y a des gens qui sont, c'est pareil, naturellement doués. Alors évidemment, alors ça, ce n'était pas mon cas, hein, mais il apprenait, il avait une façon... Et vous l'avez dit très justement, par son élégance, certainement, et par sa façon de ne pas y toucher, comme ça, les choses en avaient que plus de portée, voilà ce qu'il disait, d'une extrême délicatesse d'esprit et de cœur. Et puis, immense musicien, j'adorais l'écouter.
Ouais. Et alors, votre professeur de piano, Jacques Rouvier, un Marseillais?
Oui.
Élève de Perlmutter, de Sancan. Ouais. De Hubo aussi, tous sont passés par les cours de Jean Hubo.
Oui. Et puis quel parcours aussi, parce que lui, après, il est allé aussi travailler avec Jean Fascina. Et donc, c'est quelqu'un qui était toujours dans la recherche. Et puis, ça a été le grand amour avec Jacques. Donc, une expérience magnifique. Et puis, quel pédagogue, regardez maintenant. Je rencontre partout dans le monde, de l'Amérique du Sud jusqu'en Asie, des élèves de Jacques. Donc, j'ai eu de la chance.
Quand vous dites que ça a été le grand amour, il y a un côté Pygmalion. Est-ce que aussi c'est inhérent à la nature même du professeur quand il enseigne dans toute sa noblesse que l'élève soit aussi dans une forme d'évident transfert?
Non, mais c'est ça qui révèle un immense professeur. Et ça, je l'ai vu après aussi avec Lorne Fleischer, avec Bashkirov. Sont des êtres qui savent révéler l'autre à lui-même, en fait. Donc, alors peut-être que le côté Pygmalion aurait peut-être pu avoir un certain côté, mais avec une forte tête comme la mienne, ça ne pouvait marcher de toute façon. Mais je dois dire que, venant de lui, absolument pas, c'est quelqu'un qui a trop d'intelligence et de sensibilité pour même essayer quoi que ce soit de ce genre. Non. Je dis, la vie tient un fil. Parfois, je me demande si je n'avais pas eu la chance de faire ces rencontres au bon moment. Eh bien, voilà, nous ne serions pas là maintenant. Donc, inespéré tout ceci.
Vous dites forte tête, têtu, on vous entend passionné par vos professeurs. Et en même temps, on a lu que vous étiez très rebelle aussi pendant ce parcours, que c'était pas forcément ce que vous vouliez, qu'il y avait une frustration aussi d'avoir le sentiment de morceler le savoir, que votre envie de grands espaces, c'était l'envie des grandes sonates, c'était l'envie d'embrasser tout, et c'était pas l'envie d'un mouvement. Donc ça a pas été forcément un long fleuve tranquille.
Non, mais en y repensant maintenant, je pense que ces aspects-là se sont gommés naturellement. Et puis, je suis arrivée à mes fins aussi, dans la mesure où ils m'ont quand même laissé passer à autre chose. Et puis, je me suis aussi autorisée. Mais il y avait quand même beaucoup de bienveillance, il faut bien le dire. Et bon, en fait, j'avais la folie des grandeurs, tout simplement. Enfin, c'est normal à cette heure-là aussi.
Vous pensez au concours de Tchaïkovski, je crois que c'est Christian Ivaldi qui joue un rôle important parce que c'est lui qui va vous donner le papier nécessaire et la lettre de recommandation pour que vous puissiez vous inscrire. Vous inscrivez très jeune. Ce concours, Jacques Rouvier, je crois, lui, vous le déconseille.
Oui, parce qu'il allait être... Oui, et puis il allait être au jury, donc il disait il va te manquer tout de suite une voix de soutien dans la mesure où je suis... ton professeur officiel, donc je n'aurais pas le droit de voter, c'est prématuré, tu vas perdre ton temps. Mais il avait absolument raison. En même temps, moi, j'étais passionnée par la Russie, j'adorais déjà la littérature russe à cette époque.
Tu es amoureuse du prince André ?
Oui. Absolument. Comment le saviez-vous ?
Parce que je pense qu'on est, beaucoup.
C'est très juste. Et donc, pour moi, c'était la Libye, c'était uniquement, enfin, en fait, plus pour me rendre... en Russie que pour faire ce concours. Voilà, c'était le prétexte.
Je crois que c'est un séjour que vous faites avec votre mère. Oui. Et on sent dans tous vos écrits une grande proximité avec votre mère.
Oui, oui, on a toujours été très, très proches. Une véritable amie, dans le plus beau sens du terme. Et donc, une grande complicité aussi. On riait toujours beaucoup ensemble. Elle aimait aussi beaucoup observer les autres. Donc toujours à commenter, aussi bien l'une que l'autre, c'était très drôle. Et moi, ça a été une expérience magique sur le plan humain. Moi, j'avais l'impression d'être, mais encore une fois, ça c'était dans ma tête, mais j'avais l'impression d'être chez moi, d'avoir trouvé une partie de mes racines.
Fait plein d'allers-retours, mais bon, quand vous avez 15 ans, vous enregistrez votre premier disque.
Oui.
C'est pas anodin. C'est tout d'un coup un coup de projecteur. Vous choisissez Rachmaninov, qui est alors celui qui parle le plus à la fois au désir de jouer, à cette matière que vous évoquez aussi, cette manière de pétrir le clavier. Et puis,
oui, et puis à son romantisme aussi. Voilà c'est ça. C'est vrai, et puis c'était directement sur les talons de cette expérience en Russie. Et je le dois à Jacques, puisqu'en fait son producteur, c'est le producteur de Jacques et de Jean-Jacques Kantorov, Yoshiharu Kawaguchi, de Denon à l'époque, Nippon Columbia, qui venait leur rendre visite régulièrement à Paris pour parler de leur projet. Et donc Jacques lui a fait écouter cette cassette que j'avais ramenée de ce concert avec soi à la fin de la deuxième année. Et Yoshi lui aurait dit, mais voilà. Qui est-ce? Est-ce qu'on peut faire un disque? Et Jacques aurait répondu, alors on attend qu'elle ait déjà son premier prix à passer, on verra après. Mais moi, je suis tombée amoureuse de l'enregistrement. Je sais que souvent, déjà j'avais entendu dire à l'époque, oui, mais enregistrer c'est stérile, rien ne remplace le live. Et moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose d'érotique à la présence du micro, de spirituel aussi, quand on voit cette lumière rouge qui s'allume. L'espace, alors pour autant que ce soit un espace... de concert vraiment, avec une acoustique naturelle, avec une certaine, comment dire, réverbération de son, qui est un retour. C'est cette même chose qui se produit, et qui en même temps crée l'espace pour la possibilité du divin par cette musique. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et j'ai toujours adoré l'acte d'enregistrer, jusqu'à ce jour, 35 ans plus tard.
France Musique, les grands entretiens d'Hélène Grimaud.
Quand vous êtes dans ces âges-là, est-ce que c'est déjà Brahms qui vous parle, ou Liszt, Chopin? Quels sont vos compositeurs
Oui, on est passé de Chopin à Liszt à Brahms. Voilà, donc exactement dans cet ordre. Donc oui, Brahms dominait déjà à l'époque, il faut bien le dire. Même s'il n'était pas trop représenté dans les programmes que j'ai préparés pour ces épreuves du concours, mais oui, dans ma vie privée, il l'était déjà. Oui.
C'est quoi ce qui vous attache spécifiquement à Brahms, son monde, son écriture? Comment vous pourriez nous le raconter?
C'est ce côté poignant dans l'expression brahmsienne, ce moment où on jette un regard vers l'arrière, sur le moment où tout a changé. Et où plus rien ne sera comme avant, voilà, d'un moment à l'autre, comme ça. Et aussi quelque chose de très sain, aussi, dans l'architecture, quelque chose de très harmonieux, finalement, dans les proportions, dans la forme, aussi à la croisée des chemins entre, on peut dire, grand romantique, mais très classique dans la forme. Et donc, c'est vrai qu'on se sent bien dans cette musique, au niveau spatial même, hein, de l'organisation de l'espace. Donc ça, et puis aussi cette particularité, je trouve en tout cas, qui fait que les mouvements rapides ne le sont jamais vraiment, les mouvements lents aussi, jamais tout à fait. Donc c'est une pulsation très proche du battement de cœur, voilà. Et très très vite, peu de temps après l'écriture du premier concerto, il y a tout d'un coup une distance, quelque chose qui relève de la self-preservation, hein, essayer de se protéger lui-même, et donc il ne nous laissera plus voir, il ne laissera seulement entrevoir qui il était réellement. Donc, pour en revenir à tout ce côté mystérieux, énigmatique et quelque chose qui vous aimante, littéralement, c'est peut-être pour ça que je pense qu'il peut accompagner toute une vie.
Ce sont des conversations aussi que vous avez d'âme à âme.
Oui, absolument. Et voilà, des amitiés qui s'incarnent. Alors des amitiés, même si elles sont un peu, comment dire, one-sided.
À sens unique.
Oui, à sens unique en même temps. Elles vivent dans notre tête et puis elles s'incarnent quand même dans l'acte de l'interprétation, parce que c'est ça qui est miraculeux. En tant qu'interprète, on n'est que, ben, je l'ai souvent dit, mais on est seulement médium. Mm-hmm. On est donc dans l'acte de la transmission entre le monde du compositeur et le monde du public, aussi bien individuellement que collectivement. Donc c'est un rôle humble, et en même temps cette musique, ces textes sacrés ne vivent pas autrement, et donc ils sont chaque fois différents. Donc c'est une relation très particulière, unique, qu'on ne peut avoir qu'avec ses compositeurs, et on les sent. Moi, je veux dire, avec Beethoven par exemple, chaque sforzando, hein, on sent ses débordements, ses coups de coude, ses coups de brusquerie. On a l'impression physiquement de savoir qui ils étaient. Ouais. Voilà. C'est de la magie noire presque, hein, parce que ça paraît impossible.
Thank you. Le travail avec les compositeurs contemporains, c'est aussi quelque chose qui nourrit cette forme de liberté. Vous qui avez travaillé aussi avec Arvo Pärt, qui aimait jouer aussi Takemitsu, Koriano, John Adams, oui. Voilà. Steve Reich, c'est désinhibant, si je puis dire, ces conversations qu'on a avec le compositeur vivant. Ça rend plus large et plus audacieux le rapport aux compositeurs qui ne sont plus.
Oui, alors c'est intéressant parce qu'en même temps, ça tient du fantasme, parce qu'on passe nos vies, quand on est dans l'apprentissage, à rêver, à espérer qu'on aurait pu rencontrer Bach, Beethoven, Brahms, et Schumann, et Rachmaninoff, et leur poser des questions sur ce qui les inspire, sur ce qui les a nourris, toutes sortes de choses sur le processus créatif. En même temps, comme je l'ai souvent dit, quand on est dans le contact à l'œuvre, c'est l'œuvre elle-même qui doit vous livrer les clés de ses secrets. C'est-à-dire que, alors, je ne dirais jamais le contraire, il faut avoir aussi tout lu, s'être documenté sur la vie du compositeur, c'est ce qui se passait historiquement, politiquement à l'époque, artistiquement, chez ses contemporains, dans la vie personnelle du compositeur. Évidemment, je ne vous dirai jamais le contraire. En même temps, toutes ces informations comme ça, biographiques, ne suffiront pas à établir ce lien. C'est quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus direct. Alors, quand on a la chance de pouvoir rencontrer Arvo Pärt ou Valentin Silvestrov, des gens comme ça, alors évidemment, on leur pose toutes sortes de questions, mais on réalise aussi, pour autant que ça soit fascinant et désarmant en même temps, eh bien, que tout ça, c'était déjà dans la musique.
Et par exemple, il y a des compositeurs avec lesquels des rencontres restent attachées, Jorge Bolet, avec Liszt, oui. Des choses comme ça qui sont devenues quasiment intrinsèques, finalement, aussi, dans la manière de voir. Je sais pas, je vois aussi Gheorghi Chandor, je me dis que oui. Sur Bartok, sans doute, aussi, que vous jouez beaucoup, forcément qu'il y a quelque chose.
Ben oui, en tout cas, je l'espère, ne serait-ce que pour leur faire honneur. Mais oui, c'est inévitable, parce que nous sommes tous éponge, émotionnellement, intellectuellement. Et donc, quand on rencontre des gens forts, des gens qui ont quelque chose à communiquer, c'est quand même assez rare qu'on ne s'en empare pas.
Un côté cannibale, un peu, en fait.
Oui, oui. Et donc, on n'est jamais assez, finalement, dans cet excès. Et puis, toute cette palette de sentiments humains qui s'expriment, ça passe aussi par la violence. Donc, le son, ça ne doit pas toujours être beau et rond. C'est parce que ça limite trop.
Ça peut être un esclavage, le beau son, en fait, chercher un beau son.
Et oui, parce que
s'il faut s'en défaire.
S'il n'est que beau, il limite la possibilité expressive. Et je crois qu'on passe à côté. Alors évidemment, ça dépend des compositeurs aussi. Mais chez les compositeurs qui m'intéressent particulièrement, je pense qu'on passe à côté d'éléments essentiels de leur musique et de la force qu'elle a. Donc voilà, après, c'est subjectif aussi.
Un extrait de Credo d'Arvo Pärt par Hélène Grimaud, le chœur et l'orchestre de la radio suédoise dirigé par Esa-Pekka Salonen pour refermer le troisième épisode des Grands Entretiens avec Hélène Grimaud. Une série proposée par Judith Chen, réalisée par Adrien Roch et disponible en podcast sur l'application Radio France.
à réécouter sur francemusique.fr.